Depuis des années, on me tient éloigné du labyrinthe par la peur, celle du monstre, du péché, de la honte. Pourquoi faire si peur aux jeunes filles avec des histoires de monstres dans le labyrinthe, de loups dans la forêt ? N'est-ce pas de nous dont on a peur ? De ce que l'on pourrait découvrir en nous si l'on osait ? La peur, un bon guide pour savoir où aller. L'entrée du labyrinthe est obscure, mystérieuse. Je connais mon corps, je sais que l'obscur recèle des trésors. Je décide d'entrer, de suivre mon propre fil. Extrait du Labyrinthe des jours de Mélanie Leblanc qui sera avec nous ce matin. Il est 8h du matin, nous sommes le jeudi 30 septembre 2021, c'est le pire reste à venir et nous vous accompagnerons pour votre réveil, pour votre café, pour un petit bout de route durant l'heure que nous avons devant nous. Bonjour Vinci.
Bonjour JC.
Et ben voilà, au programme de cette matinale, eh bien je l'ai dit, nous recevrons Mélanie Leblanc qui sera avec nous. Nous parlerons avec elle de ce nouveau livre, roman poétique, je ne sais comment le qualifier précisément, mais on aura l'occasion de partager l'heure avec Mélanie pour en savoir un petit peu plus. Nous irons faire un petit tour du côté de Verneuil-sur-Avre où nous appellerons Manon de la salle Le Silo pour prendre un peu des nouvelles, comment ça va, ce qui se passe du côté du sud du département. Et puis, bien entendu, vous retrouverez nos bons plans, vous retrouverez... qu'est-ce que vous retrouverez encore, d'ailleurs, nos
le
bons
répondeur.
Plans le répondeur, bien entendu. Et puis, toute une sélection musicale pour vous ravir les oreilles dès le matin, non ?
Et vous mettre de bonne humeur.
Ah, voilà, c'est ça qu'on voulait, c'était se mettre de bonne humeur, tout à fait. Le pire reste à venir, c'est sur HDR 99.1, c'est sur Principe Actif 102.4, 95.9 et nous avons l'heure devant nous pour pouvoir nous faire plaisir et nous mettre de bonne humeur, comme tu le disais Vinci.
Le pire reste à venir, tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Le pire reste à venir.
Et pour rentrer de bonne humeur, comme tu le disais si bien, Vinci, tu nous as préparé une toute première sélection musicale.
Exactement, donc ce matin on va écouter Divo, I Get No Satisfaction, donc c'est un cover des Rolling Stones et qui a bien la patate. Je trouvais que pour ce matin ça pouvait être pas mal.
Eh ben allons-y alors Vinci.
On écoute ça.
Set up.
Et voilà, donc c'était Divo, I get no satisfaction. Et tout de suite, on va enchaîner avec le répondeur.
Ouais, salut la matinale.
Hi, principe actif.
Bonjour.
Foutez-moi le bordel.
Merci pour l'émission.
C'est toujours une belle ambiance.
Ah, la like t'es mauvaise, mauvaise.
C'était super.
Et passez une bonne journée à la matinale sur 102.4.
Alors ce matin, on n'a pas de message, mais vous pouvez toujours nous en laisser au 02 32 62 57 32. Donc le répondeur, vous pouvez nous donner vos avis, vos réactions, vos coups de gueule, les événements que vous avez, que vous proposez dans vos villages, dans votre association, n'importe. Et ça sera diffusé à l'antenne tous les matins à 8h05.
Voilà, c'est ça. Oui, puis juste appelez-nous pour donner de vos nouvelles, enfin un truc, voilà, ce que vous voulez en fait. Nous, on aime bien avoir vos messages le matin quand on arrive. On aime c'est bien vrai. Les écouter, les diffuser. Ça fait toujours plaisir.
Ça fait plaisir, ouais. C'est exactement ça.
Voilà, donc envoyez-nous vos messages. Bah nous, on est posé 8h07, la vie est belle, on est sur HDR, sur Principe Actif, paré pour recevoir notre invité, paré pour les bons plans, paré pour discuter avec Verneuil-sur-Avre, le silo de Verneuil-sur-Avre. Exactement. Très précisément, sur la programmation et tout ce qui va s'y passer. On est bien, bien installé, voilà.
C'est
café
ça.
À la main.
Exactement,
café à la main.
Hein. Café à la main. On est bien.
Alors, on attend Mélanie qui ne saurait tarder à arriver. Bah oui, c'est ça, c'est faut notre invité forcément pour discuter avec notre invité. Hein. C'est comme ça que ça marche.
Hein. On se fait désirer en plus. Hein.
Bah ouais, ah bah oui. en plus. et puis voilà, on parlera avec elle. Je vous l'ai dit tout à l'heure du labyrinthe des jours. C'est un je sais pas comment le qualifier, un roman poétique, une histoire en émotion, voilà. Oh, c'est pas mal, ça, une histoire en émotion.
Ouais,
une histoire en émotion. Sortie tout fraîchement, c'était le 20 et quelques septembre que c'est sorti. Donc c'est tout frais. Et c'est Mélanie que j'entends dans
les escaliers,
exactement. Je te propose, Vincent, à ce moment-là, une petite pause musicale, le temps d'accueillir convenablement Mélanie. Et puis nous échangerons juste à la sortie de cette pause musicale.
Skip this funk on a roll. We'll be right back.
skin.
Shaolin Temple Defender, voilà, c'est un drôle de nom d'ailleurs pour un groupe de soul qui envoie voilà de la soul, ça sonne américain à mort quoi, alors avec un nom, avec un nom Shaolin Temple Defender. Voilà, c'était le petit morceau soul du matin qui réveille et nous accueillons avec nous Mélanie Leblanc. Bonjour Mélanie.
Bonjour à tous les deux.
C'est un vrai plaisir de te recevoir ce matin. On te reçoit à l'occasion de la sortie toute fraîche du Labyrinthe des Jours.
Oui.
Que nous définissions tout à l'heure pour donner un petit peu le cadre aux auditeurs. Nous disions un roman poétique, une voilà, on avait du mal à le définir très clairement parce qu'il y a un style d'écriture, on va dire inhabituel. Habituel pour un roman et particulier pour de la poésie. On te connaît comme poète, Mélanie. Et voilà, il y a une écriture un petit peu particulière. Tu l'as définie comment, toi, d'ailleurs, cette écriture?
Alors, moi-même, j'ai du mal à définir ce que c'est. C'est vrai que d'habitude, je suis plutôt dans des formes très, très brèves. Et là, j'ai laissé aller l'écriture. En fait, c'est Ariane qui entre dans le labyrinthe et on entend la voix d'Ariane. Et j'ai donc il y a un côté très sonore où j'ai travaillé la langue quand même, même si c'est un récit, donc on peut parler peut-être de récit poétique. Il y a un libraire qui l'a présenté comme ça, en tout cas. Et en fait, j'aime bien aussi le travail plastique en poésie, comment le vers s'inscrit sur la page. Donc j'ai travaillé aussi d'un point de vue visuel. Les mots qu'elle écrit forment les murs du labyrinthe. Donc sur chaque page, on a un bloc de texte qui forme comme un mur, et puis à l'intérieur, la ponctuation varie au fur et à mesure du livre. Voilà.
Alors justement, au niveau de cette ponctuation, moi, ça m'a donné un effet de... comme si, en fin de compte, on se retrouvait un peu au théâtre. J'avais l'impression vraiment d'avoir une personne qui faisait un monologue dans ma tête, qui était sur scène et qui récitait ce poème. Alors, je sais pas si c'est étudié, si c'est fait exprès ou
mais
pas.
Alors que les metteurs et metteuses en scène vous entendent. Moi, je rêverais de le voir sur scène. C'est vrai que ça fait monologue aussi. C'est pour ça que c'est difficile à définir. Il peut y avoir peut-être des textes de théâtre parfois qui s'y en approchent quand ce sont de longs monologues. Et bien, tant mieux si vous avez vu ça. Ça me fait très plaisir.
Alors, j'aurais aussi voulu savoir pourquoi est-ce que vous avez pris le mythe de Ariane et de Thésée?
Alors c'est un mythe, enfin tous les mythes qui se concentrent autour du mythe du labyrinthe m'intéressent énormément depuis très jeune, car j'ai fait une maîtrise à l'époque, c'était pas un master, ça s'appelait une maîtrise, sur le labyrinthe au cinéma. Voilà, j'avais travaillé notamment sur Shining. Et donc voilà, le labyrinthe, ça me fascine depuis longtemps. À l'époque, j'avais beaucoup lu aussi sur le labyrinthe. Et c'est vraiment une figure initiatique. On apprend beaucoup dans le labyrinthe. Et en fait, en lisant des livres sur le labyrinthe, je me suis rendu compte que c'était un mythe universel qu'on ne retrouvait pas seulement en Grèce avec l'histoire du Minotaure, etc. Et souvent, c'est un mythe féminin. Un mythe qui évoquait l'utérus, en fait, dans le monde entier. Et puis en lisant Beauchot aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait une civilisation avant celle des Achéens, celle de la Grèce qu'on connaît. Hein, il y avait une civilisation plutôt matriarcale. Et donc il y a quelqu'un qui s'appelle Robert Graff qui a étudié comment cette civilisation matriarcale ayant été dominée par une civilisation patriarcale, la civilisation patriarcale a emprunté les mythes qui étaient très présents. Et donc je me suis dit là, ce mythe qui était sans doute très féminin, très lié à cette civilisation matriarcale, eh bien, la civilisation patriarcale a fait venir un héros, un homme, qui entre dans le labyrinthe. La femme reste à l'entrée, elle est présente, elle a un rôle important parce qu'elle lui donne quand même le fil d'Ariane. Hein, c'est Ariane qui donne son fil à Thésée. Mais c'est Thésée le héros qui combat le Minotaure, qui ressort victorieux. Et en plus, quand il récupère Ariane, il s'est quand même engagé à l'épouser. Elle a fait ça par amour et tout ça. Et en fait, il l'abandonne sur l'île de Délos. Alors après, il y a plusieurs versions, etc. Mais quand même, c'est l'histoire d'une femme qui reste à l'entrée, qui se fait abandonner, et ça m'énervait un peu en fait. Et je me suis dit, si on veut changer les choses, il faut changer nos histoires. Si on veut que les mentalités changent et que les femmes puissent se rêver enfin puissent faire des actions dont elles soient fières, qu'elles puissent être aussi actrices et héroïnes des histoires, eh bien, il ne faut plus qu'on raconte sans cesse l'histoire d'une femme qui se fait abandonner, quoi. Donc, je me suis dit, on va faire entrer Ariane dans le labyrinthe. Voilà.
Sachant que le parallèle du labyrinthe, tu l'évoquais à l'instant, Mélanie, il y a un parallèle, enfin initiatique, voyage intérieur. En fait, c'est clairement la symbolique du voyage intérieur. Ce fameux labyrinthe, c'est son propre labyrinthe finalement. Donc, c'était pas réservé aux hommes finalement d'aller chercher et démêler son chemin.
Alors moi, je crois vraiment même que on a tous du féminin en soi et que j'ai énormément lu d'histoires dont les hommes étaient les héros sans que ça me pose aucun problème et je m'identifiais complètement à eux. D'ailleurs, moi, je m'identifiais à Thésée, en fait. Je me rendais compte qu'en lisant cette histoire, je m'identifiais à Thésée, en fait, avant. Donc, heureusement, j'espère que les hommes peuvent s'identifier aux femmes et que, en fait, c'est plus largement une réconciliation avec le féminin qu'on porte tous en soi. Je pense que les hommes comme les femmes ont quelque chose de l'ordre du féminin et que c'est bien d'être tranquille avec ça, quoi.
J'ai eu aucun problème personnellement avec Ariane, ça s'est passé nickel.
Ouais. Hein,
ce sont des thématiques aussi enfin universelles. Au bout d'un moment, quand on vient chercher en soi, il y avait ces notions de solitude, ces notions de choix, ces notions d'ambiguïté aussi, de confrontation interne. Il y a tous ces c'est pas réservé au féminin justement, et tout le monde a ça en soi ou en tout cas traverse des périodes de ce type, dans les vies tout simplement. Et se voir en Ariane ne pose aucun problème quand on est un lecteur homme, quoi.
Ouais. Et puis aussi, je crois que j'avais envie d'un labyrinthe qui soit plus lié aux tripes. Alors, ça peut être l'utérus, mais même quand on n'a pas d'utérus, c'est lié au ventre, en fait. Voilà. Que ça soit moins dans le cerveau, parce que souvent, l'image du labyrinthe, c'est l'image des méandres de notre cerveau, en fait. Et j'avais envie de quelque chose de plus physique, organique, voilà.
Bah, clairement, l'écriture, et puis la façon dont on est emmené dans ce labyrinthe des jours, je le disais à Vincent, je disais, c'est une écriture émotionnelle, c'est une écriture de ressenti, en fait. Quand on rentre dans la lecture, en fait, tout de suite, ce sont des ressentis, des émotions, des sensations qui viennent à nous. Et effectivement, quand tu dis que c'est très ventral, en fait, comme écriture très organique, on s'y retrouve carrément là-dedans. C'était, une écriture de sensations, j'ai trouvé.
Merci beaucoup. Je crois que c'est ce que j'aime en poésie. En fait, c'est vraiment que c'est un genre qui convoque vraiment les sensations. Et j'ai l'impression qu'on écrit vraiment avec son corps. C'est pas un truc si intellectuel que ça, l'écriture, en fait. Ça peut être très, très, très physique. Voilà.
C'est ça. Et pour illustrer ce que tu dis, il y a eu certaines formes de phrases où parfois j'ai relu pour saisir les mots, mais finalement la sensation était déjà là. En fait, c'est avant la compréhension des mots presque, avant la compréhension du propos ou d'où ça arrivait, il y avait déjà les sensations qui arrivaient, qui préparaient à là où tu nous emmenais justement.
Ah,
c'est un truc moi qui m'a marqué. On en parlait avec Vincent en préparant cette émission et on a échangé un petit peu et c'est vrai que c'était les mots qui ressortaient, se dire en fait. On est emmené par des sensations avant une compréhension, on va dire, de la situation, de la phrase ou de l'idée. En fait, il y avait déjà les émotions qui étaient là, qui préparaient à la compréhension de la phrase, en fait.
Ah super. Mais ça va, vous avez compris quand même.
Ah oui, bien sûr.
Non, mais je crois que c'est pas... j'espère, en fait, que c'est accessible, parce que c'est important pour moi que la littérature puisse être accessible à n'importe qui, en fait.
Ah oui, non, mais
pour moi, c'est pas un truc élitiste du tout, donc ça m'importe, mais merci beaucoup.
Très accessible, mais c'est plutôt dans la forme, en fait, qui est surprenante, en fait, au démarrage, où on sait pas trop où on va. Pour être totalement transparent, Mélanie, moi, quand j'ai pris le livre, justement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, pour le coup, mais alors pas du tout, même. Le choix de pas lire la quatrième de couverture pour rentrer directement dans le récit. Et puis, pour avoir déjà lu des textes courts de toi, où on te connaît plutôt sur du texte court, des poésies assez courtes. Et au vu de la mise en forme, la première question que je me suis dit, est-ce que c'est plein de petits textes qu'on va tourner au fur et à mesure, ou est-ce qu'on est sur une narration complète? Première question, je ne veux pas avoir la réponse sur la quatrième de couverture, je veux le découvrir. Et du coup, il y a ce moment un petit peu de flottement où je me dis, vers quoi je vais? Vraiment, là, je rentrais aussi dans un labyrinthe. Là, pour le coup, je ne savais pas où j'allais tourner au croisement d'après. Et c'est là-dedans, je disais, où les émotions, les sensations sont arrivées avant la compréhension de sur quoi je partais, quoi.
Génial. Merci.
Voilà. Non, mais c'est une forme d'écriture. Les auditeurs le s'en douteront au bout d'un moment. Voilà, moi j'aime particulièrement cette façon d'écrire, Mélanie.
Alors justement, comme disait JC, on a l'impression qu'en fin de compte, chaque page est un poème, et que tous ces poèmes reliés ensemble forment une histoire, en fait. Alors j'aimerais savoir comment est-ce que vous travaillez, comment est venue l'idée de dire tiens, je vais écrire sur ça, comment est-ce que vous vous préparez, comment en fait?
Alors en fait, parfois j'ai des fulgurances et là c'est au contraire un livre que j'ai écrit sur énormément de temps en fait. J'ai d'abord eu envie d'écrire un texte à trois voix, je voulais faire entendre la voix de Thésée, la voix d'Ariane et la voix du Minotaure. Et j'avais fait un premier jet que j'ai fait lire à des amis. Et je me suis rendu compte qu'il m'identifiait à Ariane. Alors que moi, je m'identifiais vraiment aux trois. Je me disais vraiment que j'avais des trois, en fait. Les trois personnages de ce mythe, je les portais en moi et je pouvais m'identifier aux trois. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que c'est que cette femme à l'entrée? Et je me suis dit, non, il va falloir que je me concentre seulement sur une voix. Donc déjà, ça, c'était un long processus. Après, dans un deuxième temps, il y a eu le premier tiers ou le premier quart qui s'est écrit très vite, parce que c'était facile, c'était aller vers l'autre, c'était un texte de désir en fait. Ariane, elle entre dans le labyrinthe poussée par son désir pour Thésée. Et donc ça a dû s'écrire en deux mois. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé du chemin de Compostelle et qui m'a dit mais ce qui est important dans le chemin de Compostelle, c'est aussi le retour. Et les gens en général vont à Compostelle et ils reviennent en transport. Et je me suis dit, ah, mais c'est pareil pour mon labyrinthe, en fait. Je ne peux pas faire que entrer dans le labyrinthe. Et hop, j'arriverai, puis ça serait la fin au milieu du labyrinthe. Non, il va falloir en sortir. Et là, dans l'écriture, j'ai dû mettre 2 ou 3 ans à sortir du labyrinthe. Et ça a complètement déplacé ce que je voulais écrire initialement. Et j'ai découvert, en fait, au fur et à mesure de l'écriture, j'ai découvert plein de choses que je n'avais absolument pas prévues au début. L'écriture aussi a été initiatique. J'ai appris beaucoup sur le fait d'écrire aussi et sur comment on partage, comment on échange autour de ça. Enfin, c'est un livre qui m'accompagne vraiment à plein de niveaux, à plein de strates dans ma vie, quoi.
Voilà. C'est ça, il accompagne au jour le jour et vous, en fait, vous découvrez, vous avancez en fait en même temps que lui
oui.
Dans sa façon, dans la façon d'écrire.
Mais je dirais pas au jour le jour parce qu'il y a eu des longues périodes de plusieurs mois parfois où je le laissais de côté en fait. Par exemple, justement, ce que j'ai appris, c'est que je l'ai beaucoup fait lire à des gens, des amis à moi qui écrivent eux-mêmes, etc. Et j'ai eu des retours parfois très enthousiastes et d'autres très gênés parce qu'ils n'aimaient pas du tout, du tout. Et quand on a un ami ou quelqu'un dont on estime vraiment le travail qui nous dit qu'il n'aime pas, bah moi, ça m'a complètement bloquée dans l'écriture, en fait. On est sensible, hein. Enfin, je pense que je suis pas la seule à vivre ça, mais donc maintenant, j'ai appris qu'il fallait pas trop montrer avant que ce ne soit publié. Et donc voilà, parfois, ça m'a bloquée dans l'écriture pendant plusieurs mois.
Je propose que nous écoutions un morceau que tu nous as ramené, Mélanie. On évoquait un morceau qui pourrait aller avec l'ambiance que tu souhaitais installer ce matin. Tu nous as proposé Gisèle Pape, extrait de l'album Caillou, et c'est le morceau Peaufine que tu nous as proposé. Un petit mot sur ce morceau, juste avant que nous l'écoutions.
Alors, tu parlais d'émotion et de sensibilité. Alors là, ça relie justement le corps. Et l'émotion, parce qu'elle évoque la peau fine et l'hypersensibilité, c'est une autrice, compositrice, interprète, Gisèle Pape, que j'adore, que j'ai rencontrée grâce à Séverine Daucourt, qui nous a invitées toutes les deux à la Maison de la Poésie. Et depuis, on a fait plusieurs dates ensemble, et à chaque fois qu'elle joue ce morceau, mais je suis complètement troublée. Je vous laisse écouter.
Les voix, les gestes, les mots durs, les vides se choquent, se jettent contre les corps fragiles. Le jour s'écrit, les corps penchent. À tort, je marche, je guette. Si l'aurore me fuit dans ma peau fine, tout résonne dans ma peau fine, tout semble fort. On dit que le temps durcit les êtres au-dedans. J'ai cru à tort voir les fêlures partir au vent. Dans ma peau fine, tout résonne. Dans ma peau fine, tout semble fort.
Je commence à en avoir plein le cul. Non mais c'est vrai, c'est pas une raison parce que je donne à tout le monde des bons tuyaux que je mérite pas un peu d'amour.
T'as raison, Iggy, je t'aime.
C'est pas croyable, il faut que je m'énerve. Pour que tu me le dises, ça te coûtera 30 francs. Payable en deux fois. Qu'est-ce que tu veux comme tuyau ?
Les bons plans, alors, pour les bons plans, nous avons la médiathèque de Verneuil qui fait une séance lecture pour les petits de 0 à 5 ans, donc c'est à la médiathèque. C'est à 11h et les entrées sont libres. On a aussi le trio Jourban qui joue
Joubran.
À... Joubran, pardon. Qui joue à 17h au théâtre Le Gendre samedi. On a aussi le boom final à la friche Lucien à Rouen qui se passe dimanche.
Voilà, à pas louper, c'est la fermeture de la friche, hein, voilà, fin de saison estivale. La friche Lucien met la clé sous la porte cette année. A priori, il y aura un nouveau projet qui ressortira l'année prochaine, mais pas la friche comme on la connaît. Voilà, Donc j'invite vraiment à tous ceux qui n'ont pas encore mis les pieds à la Friche, par exemple pour les Ébrouissiens, ou même les Rouennais d'ailleurs, ou peut-être même les Sudiens du département, on dit comme ça. Non, je suis pas sûr qu'on dise comme ça, mais on dit comme on veut. En tout cas, on les invite à aller sur samedi et dimanche. D'ailleurs, il y a deux moments de festivité sur la Friche Lucien. Vendredi soir, notre chère brasserie sport, c'est Trotsky Nautique qui joue. Voilà, comment définir Trotsky Nautique, faut y aller. C'est voilà, c'est ce qu'on pourrait appeler dans le pur jus punk de ce qui est proposé musicalement, des très très courts formats, format punk hein, forcément, avec des thématiques autour du déterminisme social, du chômage, de la CMU. Enfin, voyez quel genre de punk vous avez à faire. On vous invite bien entendu à aller les écouter vendredi soir à la brasserie sport à Gravigny précisément. On a autre chose, on a autre chose ou pas? Bah si, la Jeune Session Tour quand même, nous y serons sur cette Jeune Session Tour, l'organisation John Beauregard qui propose une tournée de plusieurs dates à travers la Normandie. Ils joueront sur Évreux samedi soir, vendredi soir, ils sont en 106 à Rouen pour la date ébrouissienne. Alors vous retrouverez également la diffusion sur HDR pour vendredi soir. La radio HDR et Radio Lomax sont partenaires de cette Jeune Session Tour. Principe Actif l'est également samedi soir où nous retrouverons pour nous une nuit et la Samba de la Muerte.
Et c'est au cube.
Et c'est au cube, oui, bah, bien joué. Ouais, c'est vrai que je donne les lieux partout, sauf pour la Jeune Session Tour d'Évreux. Oui, tout à fait, ce sera au cube et nous y serons. Voilà, on pourra écouter également sur la radio, mais du spectacle vivant. Ok, on peut l'écouter sur la radio, mais le mieux c'est quand même d'aller vivre ce spectacle vivant. Voilà pour les bons plans du moment.
Oh bah c'est bien. Et ça va passer à la télé, non?
Ça va pas passer à la télé, ça va passer à la radio.
À la radio, tiens, et c'est quelle radio alors? Sans
ça
être...
Oui. Principe Actif à Évreux.
Oui.
HDR à Rouen.
Oui, merci de toutes ces précisions.
HDR, Principe Actif.
Et tout de suite, on repart en musique.
I do what I want, I do what I like, I know what face, I no fear nobody. I do what I want, I do what I like, I know what face, I no fear nobody. One can kill, if I want it, it's mine, you can't stop me, hey!
Family no go so far, they be fine doing proper, no lie, give me strength, let me prosper. Daddy say he want me to be lawyer, be doctor, riffraff, kiddy gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie, bougie, akile, oh I fancy when I see a type.
One time kill, if I born it, it's mine, you can't stop me, hey, you can't stop me, oh.
Thank you.
you can't stop me.
One time kill.
You can't stop me. Oh, you can't stop me.
One time kill.
You can't stop me. Oh, you can't stop me.
One time kill.
You can't stop me. Oh, you can't stop me.
Alors c'était Little Sims Point and Kill. Tout de suite, on a Manon du Silo qui est avec nous. Bonjour Manon.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, donc du coup vous êtes au Silo.
Moi je veux savoir comment ça va. Bonjour c'est Manon.
Bonjour, ça va très bien, merci.
Bon, impeccable, merci. Nous aussi on fait une rentrée plutôt agréable d'ailleurs. Et on voulait savoir comment ça va au Silo. En fait, d'abord on va prendre les nouvelles. Tu sais, comme quand ça fait longtemps qu'on s'est pas croisé, parce qu'on s'est pas croisé depuis un moment. Donc moi je veux avoir les nouvelles. Comment ça va au Silo, Manon?
Eh ben ça va plutôt bien. On est sur notre rentrée aussi, donc les événements reprennent. Après de longs mois d'attente, c'est un vrai plaisir de retrouver un petit peu le public, autant sur les concerts que sur les autres activités. Donc,
oui, parce qu'on vous appelle souvent pour les concerts, mais il y a tout un tas d'autres activités qui se passent sur le Silo.
Oui, sur le Silo, on va avoir trois pôles. Donc il y a un pôle aussi escalade, il y a un pôle multimédia, et puis sur la partie musique, on a aussi des studios de répétition et d'enregistrement. Et après, de manière globale, on est une association qui est aussi sur un autre bâtiment avec plein d'autres activités pour les jeunes, les familles. Voilà, ça grouille d'activités au-delà de la musique.
Exactement, oui. Et notamment avec un agrément centre social, notamment, ce qui permet d'aborder toutes ces questions un peu plus larges au niveau de services à la population. C'est classe quand je le dis comme ça. Hein. On revient un petit peu sur la partie concert, la partie scène. Vous avez ouvert votre saison mi-septembre, le 18 septembre, si je dis pas de bêtises. Il y a deux week-ends et puis ça ne cesse depuis. Hein, scène ouverte le 18 septembre. Vous avez reçu Nance Vincent la semaine dernière et puis encore tout un tas de choses prévues cette semaine.
Oui, on enchaîne les dates là. On avait hâte de reprendre et de proposer différentes choses, notamment beaucoup de reports. Donc des Nance Vincent par exemple, ça devait faire 3-4 fois qu'on avait calé une date et que c'était reporté. Donc là, on est...
Ça faisait 6 mois qu'il était dans les loges, quoi.
Ouais, c'est ça. Il attendait patiemment son tour et on est très content d'avoir pu le recevoir. C'était une belle soirée, tout comme la scène ouverte du 18 avec des groupes plus amateurs. Et là, on enchaîne demain avec ce qu'on appelle une impro au Silo. Donc là, c'est aussi pour les musiciens amateurs du territoire, de manière un peu plus informelle pour leur permettre de se rencontrer, d'expérimenter musicalement ensemble. Donc, que des beaux événements, des dispositifs différents pour tous les goûts.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a une programmation très serrée. Je crois que c'est la première année qu'il y a autant de programmation, non? Alors effectivement, les reports peut-être expliquent ça, mais il y en a tout le temps, là, en fait, des dates au Silo.
Oui, en fait, ça s'enchaîne pas mal, lié effectivement au report. Et puis après, il y a des rendez-vous, nous, qu'on veut quand même assez réguliers. Donc, comme les scènes ouvertes, on essaie d'en mettre minimum deux, ce qui est quand même pas énorme finalement, parce que ça fait 6 groupes du territoire qui peuvent en profiter sur une période de septembre à décembre. Donc, ça nous semble être un minimum. Après, des soirées, ce qu'on appelle, nous, les soirées cabaret. Donc, comme la soirée avec Nance Vincent, c'est pareil, on essaie d'en mettre un peu régulièrement. Donc, on en a 3. Là, sur la fin de l'année, des spectacles jeunes publics, 2, ça nous semble être un minimum aussi. Donc finalement, les week-ends se remplissent rapidement, ça s'enchaîne. Et le but, c'est que ce soit vraiment éclectique et que chacun puisse y trouver quelque chose, voilà, avec des soirées plus découvertes, des soirées plus pour la jeunesse, des ambiances. On essaie de varier et on aime ça. Donc ouais, on a du mal à se restreindre un peu sur le nombre de dates.
Nous n'allons pas nous en plaindre, bien entendu. Et puis, il y a vraiment, comme tu le soulignais, voilà, de la variété dans ce qui est proposé. Il y a des choix assez éclectiques, effectivement, où on est obligé de trouver son bonheur au bout d'un moment. Moi, ce que je voulais souligner également, c'est que, et ça, c'est une intention également de la MJC, du Silo en particulier, c'est une tarification hyper attrayante, hyper invitante, et même des soirées à entrée gratuite.
Oui, nous on est, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est aussi un centre social, hein, donc on n'est pas là juste pour faire du concert, on fera pas des soirées avec des gros artistes têtes d'affiche qui nous obligeraient entre guillemets à avoir une tarification trop chère. On est plutôt sur de la découverte et le but c'est qu'on reste accessible pour toutes les populations. Donc les scènes ouvertes, par exemple, c'est gratuit. Les impros au silo, là, comme demain, c'est gratuit également. Et sur les autres spectacles, par exemple, les jeunes publics, on est sur un tarif unique à 5 euros. Et sur les autres, on est entre 8 et 5 euros. Donc là, sur la fin de l'année, on ne dépasse pas 8 euros pour une entrée.
Ouais, mais ça, c'est plutôt pas mal. Nous, on adhère, hein, forcément. Si ça nous vide pas les poches, ce qui nous permet de boire un coup en plus au comptoir, nous, ça nous va forcément.
Oui, c'est le but, que tout le monde puisse s'y retrouver et que le prix soit vraiment pas une barrière. Voilà, le but, c'est que les gens se rencontrent avant tout et on ne peut pas exclure de fait les personnes qui seraient pas en capacité de sortir un billet de 10 pour aller voir un concert. Donc, ça nous paraît logique et ça restera comme ça, en tout cas, c'est une volonté pour l'avenir aussi.
C'est ça qu'on aime chez vous, Silo, aussi. Ben voilà, c'est la simplicité des choses. Et puis, intégrer qu'un concert, c'est un moment de rencontre, un moment d'échange, un moment de partage. C'est pas uniquement une diffusion d'un spectacle. Ben nous, on adhère aussi à ce type d'idée. Voilà, tout simplement. Quelque chose à ajouter sur cette programmation, quelque chose qui doit retenir notre attention en particulier, Manon, quelque chose d'inratable, ou je sais pas, même si rien n'est ratable normalement quand on n'est pas loin du silo, normalement rien n'est ratable, mais quelque chose sur lequel tu souhaitais attirer notre attention.
Peut-être la soirée du 9 octobre, on est sur un double plateau découverte, donc c'est vraiment des artistes que normalement le public n'a pas trop vu, ou en tout cas qui méritent encore d'être mis en valeur. C'est la soirée un peu plus dansante aussi qu'on organise là sur cette fin d'année.
La fin du tigre et Keep Dancing.
Voilà, exactement. Parce que l'année dernière, on avait pu reprendre un petit peu avant d'être à nouveau confiné, mais on était sur des concerts exclusivement assis. Donc là, on s'était dit que c'est un plaisir aussi de pouvoir reprendre les concerts debout, de pouvoir bouger un petit peu et on s'est voilà.
Pouvoir danser en fait, pouvoir danser tout simplement.
C'est ça, et le nom du groupe s'y prête plutôt bien, Keep Dancing Inc. C'est des deux groupes, donc La Fin du Tigre qui est un groupe normand, Keep Dancing Inc. un groupe parisien, qui sont tous les deux dans des esthétiques un peu pop-rock électro. Donc il y a des morceaux qui sont assez calmes, assez planants, et puis il y en a d'autres qui bougent bien, donc. Voilà.
Eh bien, écoute, c'est noté, Manon. Nous viendrons danser à l'occasion.
Avec plaisir.
Bon, c'est toujours un plaisir de venir dans votre belle salle. Plus largement, d'ailleurs, c'est toujours un plaisir de venir dans votre association, peu importe les activités proposées. C'est dans la façon de le faire qu'on trouve notre bonheur.
Eh ben, on a hâte de vous revoir aussi chez nous.
Eh ben, carrément. On est content de savoir que tout va bien de votre côté, Manon. On se dit à très bientôt.
Merci beaucoup.
Ouais, eh ben merci journée. À toi, Manon. Salut. Alors, nous, on va poursuivre, on déroule, parce que depuis tout à l'heure, on vous parle de plein de choses. On a parlé des événements, on vous a parlé de notre répondeur, on vous a parlé de ce qu'il fallait pas rater. On a parlé avec Manon. Mais notre invitée, c'est quand même Mélanie Leblanc. On te recevait, Mélanie, à travers notamment la sortie du Labyrinthe des Jours. Mais finalement, il y a plein d'autres choses qu'on a envie de d'aborder avec toi et de questionner. Tu l'as évoqué de manière un petit peu en filigrane tout à l'heure, cette question de la féminité qui rentre dans le labyrinthe. Que finalement, Ariane était condamnée à rester à la porte, dans beaucoup de légendes, était obligée de rester à l'entrée de ce labyrinthe. Toi, tu fais rentrer Ariane dans ce labyrinthe. Dans ton écriture, tu t'évoques souvent la part féminin, même des hommes, en l'occurrence. Il y a un petit côté à écriture, je sais pas comment le définir, je vois bien que je suis en train de rallonger ma phrase pour savoir comment je vais le dire, mais il y a une part de féminisme quand même dans cette écriture, pas le féminisme de barricade ou de militantisme ou de choc, mais un féminisme un peu distillé au fil de chacun des mots, non? Dans ton écriture, je l'ai retrouvé dans d'autres écritures à toi, cette partie Ouais, du féminin qui s'assume.
Ah ouais, dans d'autres livres, tu l'as senti aussi?
Alors, je l'ai senti dans d'autres écrits, dans d'autres éléments où moi, je m'y retrouvais. Enfin, il y avait les accords qui, en E, là, qui font que féminin, tu vois. Et sur lequel, bah, tu te dis, c'est pas que le féminin qui est intégré. Je trouve qu'il y a une écriture un petit peu, tu l'évoquais tout à l'heure, qu'il y a une part de féminin en chacun que tu aimes aller solliciter. Ouais, je sais pas. Enfin, pour moi, il y a quelque chose qui joue sur cette notion du féminin, du féminisme. Je sais pas si on peut le dire tel quel, mais il y a quelque chose là-dedans.
Ah, c'est complètement un terme que j'assume et qui ne me semble pas du tout problématique. J'ai été élevée là-dedans. Hein. J'ai eu des parents. Enfin voilà, j'ai une tante qui était militante hein, dans les mouvements de femmes, etc. Enfin voilà, les amis de mes parents aussi étaient dans ces mouvements-là. J'ai été élevée là-dedans, ça me semble naturel comme toutes les formes d'humanisme. En fait, pour moi, le féminisme c'est un humanisme. J'étais contente quand Christiane Taubira l'a dit clairement. Un extrait de ce livre est paru dans un recueil écoféministe qui s'appelle Juste après la pluie. C'est un festival juste après la pluie. Ils en ont fait plus qu'un recueil. C'est vraiment un beau livre chez Tana Édition. Voilà, j'étais contente aussi que ce soit intégré dans cette atmosphère-là. Je pense qu'il se passe des choses au niveau de l'écoféminisme et que ça, c'est très inclusif en fait ce mouvement-là et que ça concerne tout le monde. Et je pense que en fait, on souffre tous, hommes et femmes, d'être prisonniers d'histoires d'un univers très patriarcal qui nous empêche tous. De tous et toutes et tous. Donc on a les hommes ont vraiment à y gagner aussi, à avoir des histoires. Moi je suis du côté de l'histoire de toute façon. Je vais pas sortir de cet endroit-là. C'est juste que je pense que si on a si nos histoires, si nos récits changent, et ben il y a plein de choses qui vont être beaucoup plus faciles dans la vie. Voilà.
Mélanie, il est difficile de te recevoir sans avoir une lecture, enfin en tout cas sans en rêver de cette lecture. Je crois que tu as préparé un petit passage à notre demande, parce que on ne pouvait ne pas avoir une lecture de l'autrice, si tu le veux bien.
Avec plaisir, donc je vais lire une page. J'avance maintenant à grands pas. Je suis ce pas, cet autre pas. Je suis ce corps en marche, celui qui va. J'avance et vient le chemin. Rien à attendre, rien à chercher. Suffit de marcher, un pas devant l'autre, ôter le poids des pensées. Les courants d'air me nettoient. J'avance. Il n'y a plus d'hier ni de lendemain. Plus rien qui colle aux pieds. Rien qui me fasse retourner. Rien qui m'empêche d'avancer. Que le vent souffle, le froid, la faim me tenaille, je continuerai d'avancer. Jeter les vieilles peurs, couper le cordon du passé. Je respire. Air frais, nouveau. Poumons qui s'ouvrent, pieds bien plantés, en appui pour avancer.
Mélanie Leblanc, extrait du Labyrinthe des jours, qu'on vous invite bien entendu à vous procurer.
Dans toutes les librairies.
Ou dans toutes les librairies, tout à fait, tout à fait. Sur ton travail, et je voulais revenir un petit peu sur ton travail de manière générale, on pourrait se dire, une autrice, c'est quelqu'un qui travaille enfermé, seul, qui est très en introspection et qui ne voit pas le jour ou le monde extérieur. Toi, pas du tout. T'as beau être autrice, on te retrouve très 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 régulièrement sur des collaborations, sur du travail en commun, sur du collectif en fait. Je voulais que tu nous en dises quelques mots quand même, parce que on t'a vu en musique, on t'a vu en lecture, on t'a vu avec des collaborations sur des réalisations graphiques, on t'a vu sur plein de choses en fait, et à chaque fois tu collabores. Mmh. C'est un besoin d'aller mêler un petit peu tes mots avec d'autres formes artistiques ou d'autres personnes.
Alors, je pense que on n'écrit pas seul, qu'on écrit avec les autres, avec plein d'autres, parfois déjà morts, parfois absents, mais et d'autres très présents. Et je pense qu'on se nourrit forcément de tous les partages, et que si j'ai choisi la poésie, en fait, tous les arts m'intéressaient. Mais la poésie, c'est une façon d'avoir accès à tous les arts. En tout cas, pour moi, je le vis comme ça. J'adore les partages que je peux faire avec d'autres artistes. Je trouve que c'est fascinant, en fait, hein, de fréquenter des artistes dans leur processus créatif et de partager ça avec eux. Et c'est très nourrissant. Et la poésie, ça a un côté très musical, ça a un côté très visuel. Donc, évidemment, tous les arts liés au son et à l'image sont évidemment convoqués. Et oui, en fait, ça va même plus loin. C'est-à-dire que j'ai réalisé une exposition au Musée Mallarmé en 2020 qui s'intitulait Relier. Je pense vraiment que le fait de se relier aux autres, au monde, au vivant, à la nature, c'est vraiment fondamental. Ça habite mon travail en profondeur. Donc il y a eu cette exposition, mais j'ai écrit tout un livre aussi, voilà, qui est prêt et qui cherche éditeur, qui est autour de cette idée-là, du fait de se relier, en fait. C'est vraiment hyper important. Mais se relier à l'humain, se relier à l'animal, se relier au cosmos, se relier à la nature. Voilà.
Et puis c'est dans les formes aussi, parce que dans les collaborations, il y a eu des formes. Je regardais là, tu évoquais la notion d'éditeur et on y reviendra dans un instant. Mais moi, je me souviens des Étoiles Filantes, notamment donc aux éditions Vanternier. Il y avait aussi les gens qui osent. Alors là, j'ai des éditions, je les ai plus.
C'est toujours les Vanternier,
toujours, voilà. Et puis il y avait un petit côté fait main, en fait, sur cela. Moi, ouais. Je voulais revenir sur cette notion aussi, parce que au-delà du texte, au-delà des illustrations qui étaient magnifiques aussi dans les gens qui osent, notamment, au-delà de tout ça, il y avait un côté fait à la main, fait. On avait chacun des exemplaires avait été fait pour soi, quoi. Enfin, il y avait ce côté-là.
Ben merci. Oui, j'adore travailler avec les Vanternier. C'est une maison d'édition artisanale. Qui est désormais à Lille. Et donc, chaque livre est fait à la main. Et chaque livre est pensé en fonction du texte. Et il y a un rapport très, très sensuel à l'objet livre. Et donc, comme c'est fait à la main, il y a vraiment une intention. La personne qui fabrique ce livre à la main, ça a tellement rien à voir, un objet fait à la main ou un objet industriel. Et donc, pour transmettre la poésie, c'est vraiment un écrin exceptionnel. Et donc, j'ai réalisé plusieurs livres avec les Vanternier et avec plaisir. Parce que je trouve tous mes livres très beaux. Donc, là, par exemple, le livre Les gens qui osent, qui est sorti en février dernier au Vanternier, il est illustré par Magali Dulin. Et j'aime beaucoup cette illustratrice. Là, Le labyrinthe des jours, il est la couverture est magnifique grâce à une encre de Magali Cazot avec laquelle j'ai un projet aussi plastique, enfin mêlant nos univers artistiques et poétiques. Et donc voilà, c'est un plaisir pour moi de collaborer avec des artistes. Il y avait Delphine Vaude qui avait déjà aussi une encre sur Éphéméride, mon premier livre qui était un livre CD paru chez Les Vanternier et qui a été réédité en juin dernier sans le CD, donc il est plus accessible financièrement. Voilà.
Et puis aujourd'hui, parce que c'est important, parce que c'est une patte aussi, une maison d'édition, bien souvent. Le labyrinthe des jours, on l'a pas dit, mais c'est chez Le Castor Astral. Une rencontre particulière avec Le Castor Astral, au bout d'un moment aussi, c'est sur une diffusion plus large que les choses se font.
Alors oui, ce texte, comme je l'ai porté pendant longtemps, j'avais envie qu'il soit largement diffusé. Et donc, j'ai la chance avec les Vanternier d'avoir énormément de ventes. Hein. C'est important parce que ça veut dire des lecteurs et des lectrices. Et en fait, les Vanternier, ça a beau être une maison d'édition artisanale, il y a eu vraiment beaucoup de ventes. Enfin, c'est-à-dire que, pour donner un ordre d'idée, des Étoiles Filantes, on en est bientôt à 2000 exemplaires. Pour de la poésie, l'édition faite à la main, c'est quand même assez rare. Après, le labyrinthe des jours, c'est un texte plus long, donc je suis très heureuse qu'il soit au Castor Astral, mais aussi, ça a vraiment une autre dimension pour moi, le choix d'une maison d'édition. Au Castor Astral, sont plein d'auteurs que j'adore, qui sont vraiment des amis, enfin, des amis chers, que j'aimais lire avant, et donc je peux citer, par exemple, Tom Buron, je peux citer Rim Batal, Florentine Ray, pour les plus récents qui sont sortis cette année. Je me sens complètement en famille avec eux. Et même avant, c'est la maison d'édition de Zeno Bianu, d'Ariane Dreyfus, et la maison d'édition aussi de Georges Bernanos. Voilà.
Donc oui, il y a ce côté aussi avec la maison d'édition qui est essentiel, cet échange, ce travail avec la maison d'édition qui est importante aussi pour l'auteur, l'autrice.
Ah oui, alors moi j'ai la chance d'être très proche de mes éditeurs et éditrices et à chaque fois, c'est un rapport humain qui est vraiment très très important. Enfin, c'est un rapport de confiance et tout. J'ai vraiment de la chance, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer parfois du monde très parisien, de l'édition de romans. Enfin là, c'est très humain et on se sent vraiment soutenu, on est ensemble dans une passion partagée.
Justement, parce que nous, on a cette chance de pouvoir échanger avec toi durant toute l'heure là qui nous accompagne. On va bientôt arriver à la fin de cette heure que nous avions devant nous. Mais tu fais bien de le dire. En fait, voilà, chez Principe Actif, c'est l'invité aussi qui décide d'où on va. Tu nous as fait une lecture il y a quelques instants. Il y avait aussi cette notion de mouvement, de déplacement et de marche qui était importante. Sur l'écriture et puis sur la marche de Saint-Jacques en fait que tu as faite, il y avait cette notion de voyage, cette notion d'aller et de retour, et tu nous disais mais ça faut qu'on en parle en fait Mélanie.
Non, en fait c'est surtout quand tu disais que j'aimais bien travailler avec d'autres, en fait j'aime bien en fait ne pas rester enfermée dans ma pièce pour écrire, parce que je me suis retrouvée donc avec cette écriture qui m'a pris du temps quand même. À un moment je voulais finir ce livre et j'avais enfin un petit peu de temps devant moi l'été pour le finir, et je me suis dit je peux pas rester enfermée pour l'écrire, c'est un personnage qui marche, il faut que moi-même j'aille marcher. Et donc je suis partie comme ça sur un coup de tête, j'ai acheté un hamac et je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle en Espagne, et donc je dormais dans mon hamac ou dans des auberges, mais surtout j'écrivais en marchant en fait dans les pauses, mais aussi en m'enregistrant sur mon téléphone portable tout en marchant, et c'est pour ça que ce livre il est aussi physique parce qu'il a été vécu dans l'écriture même, j'étais dans un processus de marche.
D'accord. Et souvent, la marche est associée à la réflexion aussi, à l'introspection. C'est pas par hasard si ce fameux chemin de Compostelle qui peut avoir un but religieux, mais pas seulement. Il y a un but de réflexion, en fait, tout simplement. C'est un moment où on se retrouve seul face à soi-même. Et puis, ça favorise, bien entendu, la réflexion. Et même la rencontre, en fait, sur le chemin.
Parce qu'on n'est pas très seul, on rencontre plein de gens. On alterne entre moments de solitude et moments de... C'est une solitude accompagnée, en fait. Si on a envie de voir des gens, on voit des gens. Moi, j'ai adoré rencontrer des jeunes de tous les pays. C'était vraiment formidable et très enrichissant. Et je pouvais leur parler de mon projet. Et ils m'ont aussi nourri. Donc, je les remercie de loin, comme ça.
Merci Mélanie Leblanc. Je disais, on a eu la chance nous de t'avoir une heure, mais les lecteurs peuvent te rencontrer le 9 octobre à la librairie Gilbert-Joseph, c'est ça ?
Oui, chez Gilbert-Joseph à Évreux. Il y aura d'autres poètes et poétesses, notamment tout à l'heure je parlais de Rime Battle et elle vient de me dire que finalement elle pouvait, donc il y aura Rime Battle le 9 octobre, et d'autres qui sont invités donc toute la journée, et il y aura aussi des tables rondes avec les éditeurs, donc c'est l'éditeur Iconopop et les éditions du Castor Astral qui seront là.
Est-ce qu'il y a une date rouennaise à tout hasard?
C'était samedi dernier.
Bon, tu ne seras pas sans y retourner de toute façon.
Je vais à Alençon, au Festival du Livre d'Alençon, les 14 et 15 octobre. Voilà.
Très bien. Sur ton site, il y a marqué 15 et 16, plutôt.
Ah, pardon.
Mais c'est pas grave.
Et le 14, c'est heure de parole. Oui, il y a trop de... Je suis un peu perdue.
C'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de dates. En tout cas, on invite les auditeurs, s'ils veulent savoir où te croiser, à aller sur ton site internet.
Oui, Mélanie Leblanc. .fr.
Voilà, .fr tout simplement. Ou te suivre sur les réseaux sociaux, car tu y es. Merci beaucoup Mélanie Leblanc d'avoir passé cette matinée avec nous. Nous, on vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes d'HDR et de Principe Actif.